Bonjour et bienvenue sur Gameblog.fr pour votre rendez-vous hebdomadaire avec le podcast de la rédaction. On est bien évidemment mercredi, la table rouge laquée incroyable est bien évidemment au rendez-vous de ce podcast 126. Un podcast dédié à une jeune société mais qui regorge de talents. Il s'agit d'une saga dédiée à Platinum Games à l'occasion de la sortie de Bayonetta il y a quelques jours à peine sur PlayStation 3 et Xbox 360. Et à cette occasion, eh bien, nous recevons, et nous en sommes très fiers et très honorés, Franck Sébastien, responsable des relations presse et relations publiques de chez Sega. Comment ça va, Franck ?
Ça va très bien, merci de me recevoir. C'est plaisant d'être de l'autre côté pour une fois, de ne pas juste l'écouter, mais d'y participer.
Eh bien, tu vas voir, ça va bien se passer, surtout que tu es venu chargé de moult anecdotes, car tu connais bien les personnes qui sont les piliers de Platinum Games, dont on va bien sûr raconter un petit peu l'histoire, à la fois les secrets, mais aussi les secrets gamers. Hideki Kamiya, bien sûr, mais aussi Monsieur Atsushi Inaba, Shinji Mikami, et des gens un petit peu moins connus, mais qui pourtant sont bien importants au sein de Platinum Games, à savoir Tatsuya Minami et Monsieur Shigenori Nishikawa. J'espère que je n'ai dit pas trop mal.
Je n'ai pas l'impression que tu les ai écorchés maintenant, je ne peux pas te jurer.
Bon, très bien, alors là je peux balancer un World of Warcraft. Wrath of the
Lich King.
C'est bon,
j'ai passé. Bien.
C'est que ce podcast va très bien se passer. Mais bien sûr, tu ne seras pas tout seul. Il y aura aussi bien sûr Julo. Ça va,
bonjour,
Julo ?
Bonjour, très bien.
Traz.
Bonjour, bonjour.
Et Raon.
Salut.
Ça va bien ? C'est parti.
Oui, oui.
Alors on va commencer. Platinum Games. Je le disais tout à l'heure, c'est un jeune studio mais qui regorge de talents. Effectivement, tout a commencé en fait, et c'est assez compliqué hein, finalement.
De vieux talents même d'ailleurs.
Ouais, avec une fusion de différentes sociétés. Raon, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette société qui aujourd'hui regroupe une centaine de personnes et comment tout a commencé ?
Alors en fait, les piliers donc de ce studio Platinum Games sont tous des anciens de Capcom qui ont commencé pour Minami par exemple sur Street Fighter 2 il y a super longtemps. C'est des gens à qui on doit des titres un petit peu connus comme Resident Evil ou Devil May Cry, Beautiful Joe, Okami,
Dino Crisis,
et justement qui ont donc eu l'habitude de travailler ensemble à chez Capcom.
Ah, oui.
Ils ont travaillé ensemble sur Clover, qui était un studio qui appartenait à Capcom aussi et qui a pondu notamment God End, Okami, etc. Mais on va revenir là-dessus. Clover a malheureusement fermé ses portes après avoir sorti Okami. Ils ont refondé une société ensuite qui s'appelait Seeds, mais qui n'a pas duré longtemps, puisqu'elle a fusionné en fait avec une autre société qui était celle de Minami, dont on reparlera tout à l'heure, qui s'appelait ODD ou Odd, je ne sais pas trop comment ça se prononce.
ODD, je crois.
ODD. Et donc ont été renommés Platinum Games. Seeds est devenu Platinum Games lorsu'ils ont incorporé Odd.
Et là, on se trouve en octobre 2007, donc c'est la création de Platinum Games. Et Franck, justement, tu sais pourquoi ça s'appelle Platinum Games ?
Bah, la raison est simple, quand ils ont cherché le nom, je crois qu'ils ont posé beaucoup de questions et puis à un moment ils ont commencé à discuter de pierres précieuses en cherchant peut-être un nom qui irait dans ce sens-là, et il se trouve qu'ils ont pensé au platine, qui est un peu un dérivé. Et surtout en fait il y a un élément important dans le platine, c'est a priori un métal qui ne s'altère pas dans le temps.
C'est comme l'or.
Voilà, et en fait le point du truc c'est qu'ils se sont dit c'est génial parce que ça veut dire que nos jeux en fait seront toujours de la même qualité pour le joueur en fait. Donc le sens de Platinum Games c'est ça.
D'accord. Et alors, il y a un point important.
C'est le métal le plus précieux du monde, je crois, d'ailleurs, le platine. Il me semble. Hein.
C'est possible aussi, en fait, ouais.
Je crois.
Après l'adamantium.
À l'adamantium, bien sûr.
S'il vous plaît.
C'est sûr que c'est pas l'uranium. Enfin, je dis peut-être une connerie.
Bon, au-delà de ce débat géologique incroyable, il y a une autre anecdote assez intéressante. Platinum Games est un studio qui n'est pas basé à Tokyo, contrairement à la plupart des studios japonais. Eux, ils sont situés à Osaka et je crois que c'est une vraie fierté pour eux.
Exactement, tous les développeurs, bah Capcom en fait est basé à Osaka, du coup quand ils sont partis, ils ont monté le studio dans la même ville, et c'est vrai que c'est un élément qui revient très souvent dans leurs discussions ou dans les interviews qu'ils donnent, c'est que a priori en fait à l'époque, en 80-90, les studios qui étaient basés à Osaka en fait c'était un peu des studios de mauvais garçons, ils pouvaient faire un peu tout ce qu'ils voulaient, alors que les studios de développement basés à Tokyo étaient plus encadrés, on pouvait faire moins de choses un peu délirantes en fait. Donc c'est vraiment une fierté qu'ils ont, c'est qu'ils continuent à être dans cette ville là d'une part parce que maintenant ils y habitent depuis très longtemps, mais aussi parce que ils ont beaucoup plus de liberté qu'ailleurs, et c'est vraiment voilà, c'est on va le dire trois fois, mais c'est vraiment un point important parce que eux le disent tout le temps.
Ça c'est quelque chose dont on parlait avec toi, et preuve à quel point pour eux c'est vraiment primordial.
Ouais, tout à fait, ouais.
Une culture de développement quoi, une vision du jeu qui est propre à Osaka par rapport aux autres.
Je pense qu'il faudrait vraiment demander à des personnes qui ont passé du temps et qui comprennent vraiment cette culture-là, mais c'est un truc dont ils sont très fiers.
ça leur tient à cœur en tous les cas.
Ouais, en tout cas, non, mais il n'y a pas qu'en jeu vidéo. En réalité, il y a une, enfin, c'est pas une rivalité, mais il y a un accent. Par exemple, à Osaka, on parle pas exactement pareil. Il y a des spécialités différentes. Voilà, c'est enfin,
c'est un petit peu le Paris-Marseille.
j'attendais.
Alors, sauf que contrairement à Marseille, Osaka est une très grande ville en termes économiques, en termes de taille, machin, etc. Osaka, c'est vraiment gigantesque et c'est ultra moderne, etc. Enfin, c'est pas vraiment rien du tout.
Que c'est l'âge de pierre là-bas.
Ces propos n'engagent que
Traz.
Mais en tout cas, ce qui est important, au-delà du nom, au-delà de la culture même d'entreprise, et c'est pour ça d'ailleurs que tu es là, Franck, aujourd'hui, c'est qu'il s'est passé quelque chose d'important en mai 2008. Ça a été le vrai lancement finalement un petit peu de Platinum Games. C'est cette annonce de 4 jeux exclusifs à Sega. Mad World, Bayonetta, Infinite Space et... un jeu, bah, on ne sait pas.
Le jeu dont on n'a pas encore donné le nom.
Comment ça s'est passé tout ça?
Comment ça s'est passé? Je pense que c'est assez compliqué cette histoire japonaise. Tout ça, ça s'est fait au Japon évidemment. Je pense que quand Platinum Games a cherché des partenaires pour éditer leur jeu, ils sont tournés vers des sociétés japonaises ou des gens qu'ils connaissaient déjà. Et a priori, il y avait des liens entre les gens de chez Platinum, en tout cas entre Minami et des personnes chez Sega. En fait, je pense que ça s'est passé aussi simplement que ça. Après, histoire de contrat, je les connais pas, donc je peux pas rentrer dans ces détails-là. Mais ça a commencé comme ça. En fait, vous savez, les Japonais, ils adorent quand même travailler entre eux. Hein, donc ils sont restés en famille ou presque.
Mais c'est surtout quand même en plus en termes de création. Eux, ils ont des liens particuliers, on reviendra dessus, mais entre tous ces grands noms dont on va parler là, il y a des liens très forts.
C'est vrai qu'ils adoraient, enfin pour beaucoup ils adoraient Sega, ça se voit d'ailleurs dans Bayonetta, vous avez joué en fait, il y avait plein de références à Sega.
Les anneaux,
alors ça, il dit que nous en fait.
Ça, quand tu dis il, c'est Hideki Kamiya, exactement, Kamiya
dit que c'est pas une référence à Sonic. Mais il y en a d'autres en fait dans le jeu à Sega. Donc,
tu peux en dire quelques-unes sans spoiler trop.
Sans spoiler trop, dans les 10 premières minutes, à un moment, Bayonetta se retrouve dans une voiture et l'autoradio joue une musique d'Outrun. Si ça, c'est pas un clin d'œil.
Un petit peu beaucoup.
Et puis Sega a quand même toute une image, enfin une image de comment dire d'éditeur qui va accepter les jeux plus originaux que les autres, etc. Eux, c'est vraiment leur créneau. Tu sais, par exemple, au TGS, on avait interviewé les mecs de Resonance of Fate, donc Tri-Ace, les mecs qui avaient fait Star Ocean à l'époque. Ouais. Et quand on leur a demandé pourquoi est-ce qu'ils venaient, ils avaient choisi Sega et pourquoi ils avaient quitté Square Enix, c'était exactement ça. En fait, c'était on se sentait trop guindé et c'était trop classique et on nous limitait dans la création chez Square Enix. Ils l'ont pas dit comme ça, hein, mais si tu veux, c'est ce que ça voulait dire. Et ils ont dit, on a choisi Sega parce que ça répondait à notre envie de faire quelque chose de plus original, d'un peu plus nouveau. Quoi.
Pour Trieste, juste pour revenir dessus, et ça part avant, mais c'est vrai que... ils ont pas fait leur jeu avec Square parce qu'ils voulaient faire quelque chose de différent. A priori, Square ne voulait pas. Ça veut pas dire qu'ils ont quitté Square en fait. Hein.
Non,
je sais pas qu'est-ce qui se passera dans le futur, mais voilà, c'est un jeu qu'ils font pas avec Square en fait, tout simplement. Et pour Bayonetta. Et j'avais un truc à dire.
C'est normal.
Je vais revenir et du coup je vais te poser une autre question. Vas-y. Peut-être que en attendant, ça reviendra peut-être. Tu parlais tout à l'heure de Osaka, une culture de développement différente, une ville. Julo nous disait où finalement il y a un autre air qui est comme ça. Toi qui les connais bien, les Inaba, les Kamiya, est-ce que justement on le voit, Hideki Kamiya qui a eu des esclandres avec Itagaki. Voilà, le développeur des Dead or
Alive.
L'ancien
patron de la Team Ninja qui a créé les Dead or Alive Ninja Gaiden.
Oui, Ninja Gaiden, oui. Voilà. Avec quand même des phrases de Hideki Kamiya qui disait « Je suis pas chauve, je suis chauve, mais je suis pas gay. » Enfin bon, ça allait assez loin. Il a une image un peu bad boy du jeu vidéo, mais gentil, souriante. Ils ont tous des caractères un petit peu différents, avec Inaba qui a l'air un petit peu plus réservé, mais qu'on a croisé au TGS, avec des grands sourires, enfin très fun. À vivre, ils sont comment ?
Je les connais pas aussi bien que ça, il faut pas mentir. Je les ai croisés ici et là, j'ai discuté avec eux, j'ai déjeuné ou dîné avec eux. Mais à vivre, ils ont l'air vraiment sympas en fait. Faut dire ce qui est. C'est vrai qu'Inaba, il a une allure beaucoup plus froide que les autres. Mais au définitif, t'as vraiment des discussions intéressantes avec lui. Kamiya est beaucoup plus destroy. Bon, quand tu le vois habillé, de toute façon, c'est un peu le bad boy du développement japonais. Mais il est un peu plus trash. Mais ils sont vraiment tous vraiment super sympas quoi. C'est des gens intéressants. intéressant.
Et d'ailleurs, puisqu'on était un peu dans les anecdotes de Bayonetta, je crois qu'il y a une petite anecdote. On s'est tous dit forcément que Monsieur Camilla avait balancé tous ses fantasmes, tous ses délires dans Bayonetta.
Ça faisait longtemps d'ailleurs qu'il n'avait pas fait un jeu en tant que game director. Justement, il en a profité.
Carrément.
Il s'est lâché.
Et alors, on s'est dit, bah, forcément, il a trouvé une aspiration pour son héroïne, sa sorcière Bayonetta. On a évoqué parfois Elena Noguera, qui est dans la bande son de Bayonetta. Et toi, t'as peut-être une autre piste.
On a tous cherché, parce que c'est vrai qu'elle ressemble à beaucoup
de personnes. Est-ce qu'elle existe vraiment?
Voilà,
est-ce
exactement. En vrai, bah, ils disent souvent que c'est un mélange des plus belles femmes. Enfin, ils ont fait un mélange. Il y a un truc qui est marrant, c'est que la RP de Sega Europe a, moi, je trouve, d'étranges ressemblances avec Bayonetta. Et il se trouve qu'une fois, on était en interview et qu'il n'y avait plus de journalistes dans la salle. Et il y avait Lynn qui était là. Et en déconnant, je demande à Camilla, mais vous êtes inspiré de Lynn pour faire Bayonetta? Et en fait, c'est marrant. Il n'a pas répondu. Je ne sais pas si ça voulait dire oui, ça voulait dire non. Ça voulait dire que j'y avais pas pensé. Mais en tout cas, c'était assez marrant parce qu'honnêtement, quand tu la vois, tu dis ouais, il y a quand même un truc, quoi. Ça, c'est marrant.
Bon, bah, nickel.
Aussi, il a rigolé. Est-ce qu'il doit y avoir quelque chose?
Oui, c'est ça. Quand généralement, déjà, il n'a pas répondu. Donc, qui ne dit mot consent?
Un petit sourire. Pourquoi pas, hein.
Allez, on va commencer cette grande rétrospective des grands noms de Platinum Games avec monsieur Atsushi Inaba. Ensuite, on passera à monsieur Camilla. Et puis après, on parlera de Tatsuya Minami, qui est le président et le CEO.
On peut peut-être parler de Minami d'abord, vite fait?
Si tu veux.
C'est le président, justement.
Il a 47 ans, lui. Il est né en 1963. C'était le fondateur de ODD, c'est ça qu'on dit,
oui.
Franck ?
Je crois qu'on dit ODD. Je crois que je les ai entendu dire ODD. Mais bon,
ODD. Ouais. Voilà, donc l'une des deux sociétés qui a fusionné
avec SIDS, donc, pour donner Platinum Games.
Donc c'est le président.
Bah, c'est le plus vieux en fait, c'est le plus ancien, mais lui effectivement on va pas s'éterniser trop dessus parce qu'il est plus sur l'aspect management de la société.
L'aspect business.
Ouais, et puis enfin vraiment encadrement de l'ensemble, mais c'est un vieux de la vieille. Hein. Il a commencé sur Street Fighter 2 en 92. Mm-hmm. Il a bossé sur des tas de titres.
Vas-y, citer en quelques-uns parce qu'il est quand même crédité sur plus de 41 titres, donc ça va, un petit
ouais,
un petit CV sympathique.
Alors évidemment, encore une fois, c'est un crédit, hein, donc il y a des postes variés, des tâches variées à chaque fois, mais il y en a des tonnes, du plus vieux, on peut citer du Clock Tower 3, du Resident Evil, il y a du Megaman, il y a les licences de Disney que Capcom a fait à l'époque.
Il y a eu une grosse période Disney. Hein,
voilà,
Capcom,
notamment Aladdin, Magical Quest 3.
Le premier jeu de Mikami, on reviendra tout
exact.
À l'heure.
Exact. Il y a Resident 4, Glass Rose, Devil May Cry 3, Super Puzzle Fighter 2.
Ça pose quand même un peu les choses.
Super Ghouls and Ghosts, là je repars un peu dans le passé. Enfin, il y en a un bon paquet, quoi. Du Darkstalkers aussi. Enfin, tous les gros titres de Capcom, en fait, sur une bonne partie, il est dedans. Et puis plus récemment, évidemment, Mad World et puis les autres titres.
Et ce qui est intéressant quand même, c'est de voir que le président, et ça se fait mine de rien de plus en plus dans le jeu vidéo, on le voit même au sein de chez Nintendo, hein. Bah, c'est des développeurs. C'est des gens qui connaissent, c'est pas des vendeurs de gilettes, de rasoirs, etc.
C'est-à-dire qu'effectivement, ils commencent en tant que développeurs avec vraiment les mains dans le cambouis et évoluent au fur et à mesure.
Connaissance du média, quoi.
Ils savent de quoi ils parlent et puis ils accèdent après à des postes de management et appliquent leur expérience après à des nouvelles équipes. On verra aussi quand on reparlera de Mikami que c'est pas fait pour tout le monde, hein, qu'il y en a certains qui veulent rester plus sur l'aspect créatif. On reparlera de Mikami là-dessus à l'époque du Capcom Studio 4 tout à l'heure.
Donc Franck bientôt patron de Sega France, vous avez tout compris.
Je ne suis pas développeur, mais si on m'offre le poste,
tardé,
je
vais y penser. On parle aussi un petit peu de Shigenori Nishikawa, qui lui est game director chez Platinum Games.
Ouais.
Bah, lui, il a 37 ans.
C'était son premier jeu, c'était Mad World en tant que game director, mais évidemment lui aussi a travaillé assez longuement chez Capcom sur Dino Crisis 2, si je dis pas d'idiotie.
Ouais. Dino Crisis 2, ouais, premier jeu, Resident Evil, Resident Evil 4.
Voilà, il a fait la localisation, voilà, ça c'est
ça
fort.
C'est sympa.
Ça. Il a fait la localisation de Grand Theft Auto Vice City sur PSP pour la version japonaise. C'est lui qui a fait ça.
Écoute, hein,
voilà, tu vois, ils ont touché un petit peu à tout, je pense, la plupart, parce qu'on verra aussi que même pour Inaba et Camilla, ils se sont succédés à des postes des productions exécutives ou non, certains produits ou ont exécutif produit d'autres titres des autres, etc. Donc ils ont vraiment l'habitude de travailler ensemble.
Nishikawa qui a dit récemment qu'il verrait mieux un Mad World 2.
Exact.
C'est vrai.
Dans la foulée, donc après.
Est-ce que t'en sais un peu plus, Franck?
Putain, il a pas le droit, de toute façon.
Non, j'ai pas le droit. Non, j'en sais rien du tout. J'ai vu aussi la déclaration. Bah, ouais. Honnêtement, j'en sais pas plus.
Et c'est tout récent, ça. C'était il y a quelques semaines.
Ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'un président soit un ancien développeur, tout, c'est vrai que c'est important, en fait. On le voit d'ailleurs, tous ont des parcours, tu le disais, ils ont pas fait d'études pour ça. Camilla, il s'est chez l'école en fait, hein, il a pas fait d'études pour devenir développeur. Et c'est des gens qui sont passionnés, c'est ça qui est génial. Et ça se sent dans les jeux, de toute façon, c'est simple, il n'y a pas de mystère. Hein. Tu vois le truc, c'est que c'est pas des gens qui ont fait des études de programmation. Ils ont fait.
Oui, ça n'empêche pas.
Ça n'empêche rien. C'est vrai que ça.
Tu vois, Bayonetta en termes de valeur de prod, c'est quand même assez. Enfin, c'est un jeu triple A actuel.
Mais voilà, c'est juste qu'ils ont une valeur ajoutée qui est un peu différente de ce qu'on peut trouver ailleurs. Il y a d'excellents jeux par ailleurs, mais c'est vrai que là, il y a un truc différent. Quoi.
Mais quelque part, c'est une culture d'entreprise qui ressemble peut-être un petit peu aussi à certaines boîtes américaines qui font des produits de ouf. Avec des gens aussi qui se sont fait tout seuls, qui ont commencé comme planeur, comme débuggeur, comme machin.
Des ou des boîtes françaises avec des gens qui ont commencé vers 16 ans.
Oui,
là, et puis,
dans la presse vidéoludique par exemple.
Tous les chemins mènent à Rome ou Gameblog. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent, il y a pas mal de personnes, quand ils parlent de Platinum Games, qui parlent d'une société à taille humaine, ils parlent d'une centaine de personnes. Toi qui as pu aller sur place, c'est 100 personnes constamment ou il y a des pics comme ça sur des gros projets?
Je suis allé une fois, mais tu sens que c'est un studio qui est au moins dimensionné. Quand je vais dans d'autres studios, tu vois des bureaux à perte de vue. Là, ça ressemble à un studio aussi, hein, c'est pas non plus, mais c'est quand même des bureaux alignés. Hein. Mais c'est pas énorme en fait. Tu sens que il y a quand même une valeur qui est un peu voilà, d'être un peu plus en petit comité. D'ailleurs, ils font tout en fait. C'est aussi quelque chose dont ils sont très fiers.
C'est vrai,
je crois qu'ils font, rien en externe. Leurs vidéos sont faites en interne.
Non, mais toutes les valeurs, enfin tout ce qui a été produit pour Bayonetta, ils n'ont pas.
Je crois que quasiment tout est fait.
Ils n'ont pas outsourcé.
Ouais.
C'est joli terme marketing, voilà, c'est ça. Ils n'ont pas outsourcé. En tout cas, c'est ce qu'ils disent, et je pense que c'est vrai.
C'est impressionnant, là, parce que faire un jeu de cette dimension-là avec une équipe plus petite que d'autres de prod équivalente, c'est quand même pas mal.
Bah non, ils ont juste bossé 24/24, quoi, c'est tout.
Bah ouais,
ils ont tourné.
Et encore une fois, ça rejoint le fait qu'ils soient passionnés. C'est des gens, je pense, qui comptent pas leur temps. Ils font leur jeu, ils sont passionnés, ils mettent tout ce qu'ils ont envie d'y mettre dedans. Dans Bayonetta. Ouais. Je crois qu'il n'y a rien sur lequel il soit empêché. Il a déclaré
moi je veux pas de DLC, je fous tout dans mon jeu. Et voilà.
Ils ont dû bosser comme des malades, c'est sûr. Enfin,
ça se sent de toute façon.
Il y a plein de moments, Camilla il devait venir en France pour le Micromania Game Show. Il n'est pas venu. Je pense qu'il était en train de finir. Soit il attaque un nouveau jeu, soit il était en train de finir Bayonetta. Et ils adorent venir voir le public parce que quand il n'a pas venu au Micromania Game Show il y a un an, il a été super bien reçu, les Français l'ont adoré et tout, donc ça s'est super bien passé.
On peut revenir.
Mais il y a un moment, ils sont là pour faire leur jeu, donc ils adorent se balader, faire leurs interviews. Mais bon, le cœur du truc, c'est leur jeu.
Et du coup, c'est du boulot, faire un jeu comme ça, c'est vraiment du travail, quoi.
Ce qui est intéressant, c'est que avec Julo, quand on était à Tokyo à l'occasion du Tokyo Game Show, on a rencontré nos homologues, des journalistes japonais.
C'était génial.
Et c'était vraiment un très bon moment et on a parlé vraiment en toute franchise. C'était pas enregistré ou quoi que ce soit. Et c'est vrai qu'il y a 2-3 moments, on est revenu sur le cas de Bayonetta parce que nous, c'est vraiment un jeu qui nous a tapé dans l'œil. On a vraiment apprécié. On a trouvé que c'était une approche généreuse, sympa, etc. Mais on trouvait que c'était vraiment typiquement japonais. Cette nana complètement allumée, ça part dans tous les sens. Là où les développeurs occidentaux en général vont plus vers la course du réalisme, c'est un peu plus dark, très sombre, etc. On disait, c'est fou, c'est le jeu japonais à l'état pur. Et eux, ils disaient, ah ben non, nous, pour nous, c'est vraiment un jeu fait pour vous, les Occidentaux. Et du coup, il y avait une espèce d'incompréhension, on comprenait pas. Est-ce que tu as parlé de cette chose-là avec les développeurs? Comment ils le situent, ce jeu?
Les gens de Platinum Games, quand on a annoncé le partenariat entre Sega et Platinum Games, quand ils l'ont annoncé d'ailleurs, parce que c'est eux qu'on fait l'annonce, ils ont dit clairement qu'ils voulaient faire des jeux pas seulement pour le Japon, mais pour le monde entier. Moi je suis d'accord avec vous, c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs japonais dans Bayonetta, essentiellement moins dans Mad World qui est plus américain, mais dans Bayonetta il y a beaucoup de ça. Ça me choque pas moi personnellement parce que c'est vrai qu'en France on a vraiment des liens très forts avec les univers japonisants, mais je comprends en fait ta remarque à toi, et c'est vrai que ça me fait marrer que eux disent que les journalistes japonais disent le contraire, comme quoi soit le message de Camilla est très bien passé, soit il y a des choses qu'on voit pas, mais voilà, enfin en tout cas c'est vrai que le résultat est génial, mais c'est vrai que c'est intéressant, je savais pas ce côté-là.
Mais on avait un peu peur parce que on se disait mais quel
public va-t-il rencontrer
Ça a très bien marché au Japon déjà.
Est-ce que justement
c'est bien ça?
Parce que ce qui est incroyable, c'est quand même ça vraiment, ça reste leur saut aussi. Il y a un vrai saut de qualité aujourd'hui Platinum Games. Mad World et Bayonetta, les deux premiers jeux qui sont sortis aujourd'hui, ont reçu des très bonnes reviews, des bons tests, très bonnes notes de la presse. Les joueurs ont plutôt été emballés. C'est vrai qu'il y a eu le cas avec Mad World, des ventes qui ont été décevantes proportionnellement à ce qu'on pouvait imaginer.
Mais c'est peut-être plus une question de plateforme que de
justement, comment vous le jugez, vous?
C'est un sujet hyper compliqué qu'on aborde régulièrement. Il y a sans doute pas un seul facteur sur Mad World. On n'a pas la solution qui est aussi simple. Le fait de dire que les gamers sont pas sur Wii, a priori, c'est sans doute pas juste ça. On n'était pas déliant non plus quand on a approché le cas Mad World. On s'est pas dit on va en vendre un par Wii. On a été vraiment hyper pragmatique sur le nombre d'exemplaires qu'on aurait pu vendre. On s'est trompé a priori, mais voilà, il y a des, c'est très difficile d'expliquer. On aimerait bien avoir une explication à vous donner, mais on n'en a pas aujourd'hui. On est déçus. Les ventes sont pas, par contre, c'est très important, sont pas aussi catastrophiques que ce que beaucoup voudraient l'imaginer.
Et en France, parce qu'on sait que c'est la
justement
France,
non mais justement et là je parle essentiellement de la France, que je, voilà, c'est pas aussi catastrophique qu'on a pu imaginer.
Ça représente quoi?
Je peux pas donner de chiffres, ouais. Voilà, on communique pas de chiffres dessus.
Mais ça a mieux marché en France que dans les autres pays.
Je crois que ça a pas mal marché en France, beaucoup mieux, je sais pas, mieux sans doute un peu en fait. On est un public un peu à part, c'est vrai que par rapport aux autres territoires européens.
Ah bah ça, l'exception française.
Mais c'est ça qui est génial, moi je suis hyper heureux de ça d'ailleurs, mais voilà, j'ai pas l'explication là-dessus.
Et le jeu est rentable ? Est-ce qu'en gros ça...
J'en sais rien, c'est dans des sphères qui sont bien au-delà des miennes, j'en sais rien.
Il faut tout cumuler après. Donc.
Il faut, ouais, et puis après, c'est aussi, il y a un point qui est aussi très important aujourd'hui, c'est que les jeux, t'as toujours un day one qui est hyper important, mais t'as aussi un cycle de vie des jeux qui fait que plus on avance dans le temps, plus le jeu baisse de prix. Alors ouais, il baisse de prix, mais il continue à se vendre. Donc aujourd'hui...
De se relancer un peu.
En tout cas, de continuer à se vendre et continuer d'amortir le jeu. Donc aujourd'hui, le cycle de vie de Mad World n'est pas fini. Il est encore en magasin, il est encore présent dans toutes les boutiques. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui, et en plus, ce n'est pas mon rôle de dire s'il est rentable ou pas. J'en ai aucune idée. Mais c'est important à savoir pour tous les jeux d'ailleurs. Ce n'est pas valable que pour Mad World, c'est valable pour tous les jeux.
Et justement, puisqu'on parle de ça et qu'on parle un petit peu de la Wii, juste sur ce petit chapitre-là pour conclure là-dessus, c'est vrai qu'on a vu très souvent sur les derniers mois des déclarations de responsables de Sega qui disaient on reconsidérera peut-être un petit peu la manière dont on va faire les jeux matures sur Wii, parce que bon, ça a marché plus ou moins bien. Aujourd'hui, quelle est la position de Sega à ce niveau-là?
Alors en fait, il y a eu, les choses sont un peu compliquées. C'est pour ça que c'est aussi compliqué pour moi là. Il y a eu une déclaration d'une personne aux États-Unis. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Soit il n'a pas été compris, soit il y a eu un problème d'explication sur le truc. Mais on n'a pas dit qu'on arrêterait de faire des jeux matures. On en fera sûrement moins. On fera attention à ce qu'on fait, c'est sûr. Mais on n'a pas dit qu'on arrêterait de faire des jeux matures. Il y en a encore en préparation dans notre catalogue. Donc je peux vous assurer que ce n'est pas fini. Mais on fera peut-être. Voilà, je ne serai peut-être pas aussi adulte qu'on a pu le faire jusque-là, avec notamment Mad World, qui est quand même le meilleur exemple. Mais House of the Dead Overkill, qui est un excellent jeu, qui a été adoré aussi par la presse, lui par contre, je peux dire, c'est un titre rentable. Aujourd'hui on sait déjà qu'il est rentable alors que le cycle de vie n'est pas encore fini. Donc il y a quand même un public de joueurs matures sur Wii.
C'est compliqué tout ça.
C'est vraiment hyper compliqué, et je crois pas qu'il y ait personne qui ait la clé, sinon ça serait trop simple. Si un éditeur l'avait fait, voilà.
Nintendo sur la Wii, ils l'ont.
Et moi, je trouve que Mad World, il a toute sa légitimité justement sur Wii. Je l'aurais pas vu sur notre plateforme.
Mais moi aussi, je trouve que le fait de faire
parce
des gestes.
Parce que la Wiimote, exactement. Ouais. Et je l'aurais pas vu sur autre chose. C'est comme Wii Sport Resort, je le vois pas sur notre plateforme, quoi.
Platinum l'a toujours présenté comme ça. Ils l'ont fait vraiment avec la Wii.
Exactement. Elle est vraiment faite pour cette console, je trouve. Par rapport au style du jeu, à ce que tu fais et tout, c'est super jouissif, quoi.
Je trouve ça, c'est vrai que c'est décevant. Honnêtement, nous, on est chez Sega, pour beaucoup, on est hyper passionnés par notre job. Quand un jeu qu'on adore se vend pas, je peux vous dire que ça nous fait vraiment mal. Hein, parce que on y a cru à Mad World et tout ça. Et bon, voilà, c'est pas la catastrophe, mais c'est vrai qu'on s'attendait à ce que ce soit beaucoup mieux que ça. Et c'est vrai que ça nous a vraiment mis un coup au cœur.
Alors, juste vraiment pour conclure, après, on repart dans tout cet incroyable podcast sur Platinum Games et tous ses créateurs. Qui nous ont fait rêver et qui continuent à nous faire rêver. Juste, c'est Bayonetta qui vient de sortir à quelques jours à peine. Est-ce qu'il y a déjà quelques chiffres pour la France? Pas chiffré, mais est-ce que le démarrage est bon?
On n'a pas encore de chiffres. En fait, il faut attendre encore un petit peu pour juger vraiment du démarrage.
Par contre, ça a bien marché au Japon.
Ouais. Je crois que la première semaine, ils ont vendu 200 000 exemplaires, qui est pas mal. Aujourd'hui, c'est un bon chiffre. Hein, donc,
surtout pour un jeu que les Japonais considèrent apparemment fait pour l'Occident.
C'est ça qui est marrant.
C'est ça.
Donc, bon.
C'est plutôt pas mal.
Tant mieux.
Très bien. Allez, on va repartir, on va s'intéresser du coup à Hideki Kamiya, donc le père de Bayonetta entre autres. Il est né en 1970, il a 39 ans, c'est celui dont on parlait tout à l'heure avec ses esclandres, avec Itagaki, enfin j'y arriverai pas,
Itagaki,
voilà.
Itagas.
On le présentait un peu comme une sorte de
non, mais c'est vrai, tu le retiens comme ça
Itagas. Itagaki.
Voilà, d'accord, ok.
Bon,
il est toujours fringué, un peu destroy, etc.
Trash.
Tu nous en parlais tout à l'heure, il séchait l'école. Il a un cursus assez
incroyable. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais.
Comme David Perry.
Ce qu'il explique, peut-être comme David Perry, ouais, c'est
il me semble.
Je préfère Camilla, perso. Je dis pas ça, hein, David, si tu m'écoutes.
Franck, c'est à toi.
Ce qu'il explique, c'est qu'effectivement, il passait pas beaucoup de temps à l'école. En fait, il séchait la plupart du temps. Et qu'il passait beaucoup de temps sur les bornes d'arcade. C'est-à-dire qu'il allait dans la salle d'arcade du coin et il passait sa vie dessus, enfin sa vie sur les bornes.
Pourtant, au Japon, sécher l'école, c'est faut le faire quand même. Hein. Parce que c'est très très très
ouais,
très
mais en même temps,
là-bas
ils ont beaucoup
même.
Plus de salles d'arcade, alors il y a plus d'opérations.
C'est un vrai acte de rébellion.
Ouais, ouais, je pense, quand tu le vois. Quand tu le vois parler et tout ça, c'est vrai que tu sens qu'il a pas envie. Je pense qu'il a vachement de mal avec l'autorité en définitive. Ouais. Donc d'ailleurs, c'est peut-être un point sur lequel on reviendra après. Mais entre Mikami et Kamiya, quand ils ont commencé à bosser ensemble, il y a eu pas mal de clash. Et voilà quoi, c'est un truc. Et il explique notamment que il était fasciné par les pixels et qu'il allait, quand il allait à l'école, en fait, ce qu'il faisait juste, c'était remplir les cases de ses cahiers. Quoi, il faisait des pixels dans les bordures de ses cahiers.
Mais je suis persuadé.
Voilà, ça lui a plutôt bien réussi, j'ai envie de dire.
Ouais, il en a assez. Il est très content en fait d'avoir eu ce virage là, d'avoir pu trouver sa voie et de faire ce qu'il avait envie de faire depuis le départ.
Et pour nous les gamers, on lui en voudra pas en tout cas.
Ah,
autre petite anecdote assez rigolote, il y a une relation avec sa maman. Un truc qui lui
aurait promis. Non, c'est
Inaba.
Ah, ouais, tout à fait.
On reviendra dessus tout à l'heure.
Mother.
Alors je l'ai noté du mauvais côté, c'était pas grave. Alors on va parler des productions Kamiya, puisque en tant que directeur, son premier titre, ça a vraiment été Resident Evil 2. C'est à ce jour le Resident Evil qui s'est le plus vendu. Hein. C'est sorti en 1998, c'était sur PS1 à l'époque. D'ailleurs, c'est amusant, la boucle est quasiment bouclée. Franck, toi tu t'occupais du lancement de Resident Evil 2 à l'époque, c'était chez Virgin en France.
Exactement, j'ai commencé, je crois que le premier jeu dont je me suis occupé, c'était Resident Evil 2. C'était énorme, j'étais hyper heureux parce qu'en plus, moi, mon premier jeu sur PlayStation, c'était Resident Evil 1. Donc, quand je suis arrivé chez Virgin Interactive, j'étais mais aux anges de pouvoir m'occuper d'un jeu pareil. Et c'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, je retrouve, je l'avais pas croisé à l'époque, hein, mais aujourd'hui, je retrouve la patte de Camilla quelque part.
La boucle est bouclée, Franck, c'est beau. Ensuite, en tant que directeur, toujours, il faut attendre 3 ans et l'avènement de Devil May Cry, l'une des grosses baffes hein, du début de vie de la PlayStation 2, c'était en 2001. Beautiful Joe arrive en 2003, alors lui, complètement explosif, hein, radicalement différent. C'était sur GameCube initialement, et puis il y a eu Okami en 2006. Et Bayonetta en 2009, là, il y a quelques jours à peine. Sinon, il a participé à d'autres jeux.
Ah oui, oui, ça c'était ce que tout ce que t'as dit là, c'était
en tant que
directeur. Mais il a commencé lui sur le tout premier Resident Evil à un poste qui s'appelle planeur, hein, donc un poste assez bas en fait. Il s'est occupé aussi des caméras,
ouais, qui était très importante dans un Resident Evil, hein, les angles de vue justement qui faisaient tout. Hein.
Oui, ou qui ont rien fait en l'occurrence pour moi, parce que c'est ce qui fait que j'ai pas joué au jeu et que j'ai.
C'est
parce
vrai.
Que, oui, bah oui, parce que je déteste les caméras relatives.
Fixe.
Enfin, oui, absolu, pardon. C'est-à-dire que d'un plan à l'autre.
Fixe, quoi.
Oui. Non, oui, enfin, sur ce qui change, en fait, c'est que quand tu sortais d'une pièce,
ouais.
Puisque à l'époque, donc, c'était un jeu qui était sur des décors fixes avec des personnages en 3D posés dessus, tu sortais dans un couloir dans une autre pièce et tu pouvais te retrouver avec un angle de vue complètement différent, avec des contrôles inversés. Et moi, ça m'avait beaucoup perturbé à l'époque.
T'as pas joué à Alone in the Dark alors, parce que c'était exactement ça, quoi.
Ah, mais à l'époque, t'avais une souris, un clavier, c'était pas tout à fait la même interface. Enfin bref, en tous les cas, moi je me suis emmêlé les crayons sur Resident Evil à l'époque. Mais bon, c'est pas.
Ensuite, il a été game designer en 2002 sur Resident Evil 0.
Ouais.
Beautiful Joe 2, lui, il s'est contenté de l'histoire.
Ouais.
Et une petite pépite. Donc je vais te laisser prononcer le nom parce que j'ai jamais réussi de ma vie.
Ah d'accord, c'est pour ça que tu fais cette pause. Gyakuten Saiban.
Voilà, j'ai jamais réussi. Gyakuten Saiban. Gyakuten Saiban 3.
Ouais, bon, c'est donc Phoenix Wright.
Voilà,
en
c'est
français.
Ça.
Ouais.
C'est notre.
Il a travaillé effectivement.
Avocat.
Donc on va reparler de cette série puisque c'est une série très importante aussi pour Monsieur Inaba. Donc les fameux Phoenix Wright qui s'appelle Gyakuten Saiban au Japon.
On fait son parcours, les petites anecdotes, etc.
Bah oui,
qui ont comme ça un petit peu donné vie à la carrière
parce
de Kamiya.
Il est quand même refusé chez Sega au début.
Bah c'est ça. C'est que quand il sort vraiment de l'université, quand il cherche un boulot, premier endroit où il va, c'est chez Sega. Et puis on lui dit
non,
non monsieur.
Essaye plus tard. Essaye dans 20 ans.
C'est ça.
On va nous voir.
Du coup, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé après à bosser. Parce que lui, il était plutôt sur. Vu qu'effectivement, il n'était pas programmeur, c'est probablement parce qu'il n'avait pas fait les maths à l'école. En tant qu'artiste chez Namco.
Il a refusé ce job, en fait, chez Namco.
C'est
Namco qui l'a proposé.
Sega lui a refusé, Namco lui propose le job, et lui a refusé, du coup, Namco.
Ouais. Parce qu'il voulait être absolument game designer et pas artiste.
Du coup, bah, il arrive chez Capcom en 1994. Et là, on va en reparler avec toi tout à l'heure, Franck. Il démarre hein, sous les ordres de Shinji Mikami, qui à l'époque est en phase de création d'un certain Resident Evil, enfin d'un jeu horrifique qui allait devenir Resident Evil. Et du coup, bah, c'est ce qu'on disait, il devient planeur et il s'occupe un petit peu des angles de caméra. Et puis là, il y a l'épisode Resident Evil 2. Avec moult anecdotes, puisqu'on sait que Resident Evil 2 a connu une première version, ce fameux mythique Resident Evil 1.5 qui ne verra jamais le jour, et dont il y a eu moult fuites sur Internet, avec une grande partie de l'équipe Capcom débauchée par Square à l'époque pour faire Parasite Eve. Et là, ça se passe pas très bien, ça tergiverse un peu dans tous les sens. Finalement, Resident Evil 2 sort, il a complètement transformé le concept original de Resident Evil, puisque le jeu est beaucoup plus action, moins horrifique, et c'est là où il se prend un petit peu la tête avec Mikami, Franck.
J'ai pas tous les détails, mais c'est un sujet sur lequel il revient assez souvent. Enfin, il revient parce que j'ai pas eu l'occasion de discuter avec Mikami. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'il en parle souvent. Et je crois que ça s'est vraiment mal passé à l'époque. Je sais pas ce que vous avez pu en lire, vous, ici et là.
Il aurait volé un peu son bébé, qu'il aurait dénaturé.
Sachant que Mikami, il tient énormément. Ça, par contre, c'est sûr. Resident Evil, c'est très, très cher à ses yeux, évidemment.
C'est clair. Donc, bon, a priori, ça s'est pas très bien passé entre les deux. Mais aujourd'hui, Camilla est hyper fière d'avoir travaillé avec Mikami. Il se voit a priori très régulièrement. Bon, c'est simple, hein, ils travaillent chez Platinum Games ensemble hein, parce qu'ils ont des bureaux sûrement pas loin. Mais en tout cas, c'est vrai que ça a été un gros clash. Et ils reviennent vraiment régulièrement dessus. Encore une fois, c'est aussi un point qui est très cher à eux. Enfin, dans le cœur de Camilla, il est hyper fier d'avoir bossé avec Mikami. C'est son maître à penser, clairement.
Mais par contre, il n'est pas super fier de Resident 2, finalement.
Bah non,
pourtant, qui a quand même eu un succès commercial époustouflant.
Il a même fait un mea culpa public, hein, Raon. On peut carrément citer hein, ouais, j'ai foiré une fois avec Resident Evil 2, c'était mon premier projet en tant que directeur et j'ai vraiment fait n'importe quoi sur certains points. On rappelle hein, c'est l'épisode de Resident Evil qui s'est le plus vendu au monde. Parenthèse fermée. Ça a été la première fois où j'ai goûté à la saveur de Production Studio 4, donc le studio que dirigeait Mikami, de la manière dont Mikami la voyait. Si vous échouez, c'est qu'il y a une raison à ça. Je faisais trop de compromis dans mon esprit, mon savoir-faire de réalisateur n'était pas là. Si vous persistez à vouloir faire trop de compromis, alors cela va affecter la qualité du jeu et tout va capoter à la fin. L'expérience m'a donné la chance de reconsidérer ce que je faisais avec ma carrière. Je crois que c'est la première fois où j'ai reconnu la valeur de travailler sous les ordres de Shinji Mikami après tout ce temps. Et là, quand même, c'est...
C'est une déclaration d'amour. Hein.
Bah, quasiment, ouais. Professionnel. En tout cas,
ouais. Non, mais
l'importance vraiment... de Mikami dans la vie de Camilla.
Et c'est vrai qu'on voit tous les jeux de Mikami, ils sont vraiment parfaits. Donc,
Non.
Ah. Bon, alors, il y en a juste un qui fâche un petit peu chagrine.
Il y en a deux.
Un jeu qui a dû être un peu outsourcé, je crois.
On reviendra tout à l'heure, mais c'est marrant aussi d'ailleurs parce que ce jeu-là, par rapport à Mikami, c'est là qu'on se rend compte que tous ces gens-là sont quand même capables de rester très humbles malgré le track record de malade qu'ils ont.
Track record, nouveau mot.
Le CV, si tu préfères, enfin toute leur production, quoi. Et donc Camilla qui concède effectivement que c'était Mikami qui avait raison.
En même temps, c'est assez rigolo parce que c'est bien Mikami qui a fait Resident Evil 4.
Oui,
qui est l'épisode qui se tourne à mort vers l'action et qui oublie un peu le concept original horrifique, etc. Donc quelque part, il a aussi appris un peu de ce qu'avait fait Mikami, de ce qu'avait fait Camilla.
Justement, Franck, lorsqu'il y a eu la grande réunion, la fois où il y a eu où ils ont révélé Platinum Games, le fait qu'il allait y avoir 4 jeux avec Sega, il y a Mikami qui est un peu la star quand même de Platinum Games, surtout à l'époque, qui a eu une grande phrase et qui a parlé d'un certain jeu dont le directeur n'est autre que Monsieur Camilla, c'est David May Cry.
En fait, c'est Camilla qui s'est auto. Mikami n'était pas là en fait.
J'ai rien compris.
J'ai pas pu être clair en fait. Quand on a fait l'annonce du partenariat entre Platinum Games et Sega, ça s'est passé à Londres. On avait invité pas mal de journalistes d'un peu tous les pays européens. Et il y avait certains développeurs, dont Camilla qui était présent, Inaba qui était présent. Mikami n'était pas là. Et Camilla, c'est qui a créé Devil May Cry en fait. Quand il est arrivé sur la scène, il a expliqué pas mal de choses dont on n'a rien inventé depuis Devil May Cry, dont il est le père. Des journalistes qui étaient à côté de moi ont trouvé c'est un peu prétentieux, ça raconte un peu. Et en fait, depuis, on en a reparlé avec certains d'entre eux et ils ont dit ok, j'ai compris ce qu'il a voulu dire depuis que j'ai vu Bayonetta et que j'ai joué au jeu. Voilà, donc c'était pas Mikami.
Autant pour moi, mais c'est une belle anecdote néanmoins. Camilla aussi, c'est un petit peu l'homme qui est toujours dans des projets avec un destin étrange. Ça finit toujours bien, mais ça part pas toujours au top. C'est-à-dire que Resident Evil 2, il y a eu ce fameux clash, les gens qui sont partis, deux versions, enfin bon voilà, mais ça se finit super. Et puis il y a eu le cas Resident Evil 4 justement, avec 10 000 développements, dont un jeu qui à la base devait être Resident Evil 4, Devil May Cry, Julo.
Ouais, complètement. En fait, il a commencé à développer avec de nouvelles idées, et notamment une idée assez rigolote, parce que vous savez, dans Devil May Cry, il y avait ce principe de juggle où tu envoyais les ennemis en l'air, etc. Et cette idée, il l'a eu en débuguant Onimusha, donc un autre jeu Capcom, dans lequel il a trouvé un bug énorme qui fait que les ennemis restaient en l'air et qu'ils pouvaient continuer à les slasher. Il a trouvé ça génial. Et ça a été l'une des idées fondatrices de Devil May Cry, qui était Resident Evil 4, en fait, au départ. Et il devait toujours y avoir un peu d'eau dans le gaz entre lui et Mikami, et finalement ça n'a pas dû s'arranger avec ce projet-là, vu qu'il s'est fait gentiment va faire ton jeu ailleurs, trouve un autre titre, un autre perso, et puis nous on va faire Resident 4 quoi. Donc c'est assez rigolo quoi, c'était vraiment un Resident Evil, et il a connu un autre destin, et finalement un très beau destin aussi,
beau destin carrément. Aussi toujours dans les anecdotes, Kamiya, il a prêté sa voix à un personnage de Beautiful Joe et à un autre de, je vais essayer cette fois-ci, Gyakuten Saiban 3.
Bravo,
joli,
bravo.
Parfait, impeccable.
J'ai réussi à le passer.
Il aime bien prêter sa voix. Et je me demandais, du coup, tu as peut-être pas la réponse, mais est-ce qu'il a prêté sa voix à un personnage de Bayonetta ? Peut-être, Franck. Du coup. C'est peut-être une manie qui est là.
S'il l'a fait, je ne suis pas au courant. De lui demander. Je crois pas.
La voix de Bayonetta, justement.
Ouais, c'est lui. Putain, la classe.
Quand on avait dit qu'il avait mis tous ses fantasmes, on ne parlait pas forcément de cela. Ouais. en tout cas, voilà. Intéressant aussi de voir quelles sont un peu ses références, les jeux qui l'ont vraiment marqué, ses jeux favoris. Le premier d'entre eux, c'est Castlevania.
Et finalement, ouais, c'est son jeu préféré.
Entre Devil May Cry et Castlevania.
Ouais, le Castlevania original. Hein.
Ouais, d'époque, ouais.
Ouais, le premier, quoi. Et tu vois des ponts, c'est ça ?
Entre un petit peu.
Ouais, carrément.
Le
bah,
côté
dans les
gothiques.
Bien sûr, le côté gothique, etc. Mais c'est pas tout, il a également deux jeux. Deux jeux favoris, donc c'est Zelda A Link to the Past,
le volet Super Nintendo,
voilà, tout à fait, et un autre dont je me rappelle plus,
c'est le shoot,
c'est Gradius,
voilà. Du shoot, de l'aventure, on peut y voir plein de trucs aussi, mais
d'ailleurs,
voilà, c'est ces deux jeux cultes.
Tous les jeux Camilla, je n'en dirai pas plus, mais il y a de l'aventure, de l'action et du shoot.
Ouais.
Il y a toujours une séquence de shoot quelque part, etc. Il mélange à chaque fois un petit peu ses jeux préférés dans ses jeux à lui. Et ça, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, autre anecdote sur son blog officiel à lui qu'il a, en attendant qu'il ait un blog VIP
sur Gameblog.
Monsieur Kamiya aurait demandé à Sega de convertir sur console le jeu Afterburner Climax. Il est comme ça, Kamiya. Est-ce qu'il a des demandes un peu surréalistes parfois? Est-ce qu'il est rock'n'roll vraiment dans la vie, ou c'est un personnage?
Je crois qu'il doit être assez demandeur de certaines choses. Je ne l'ai pas vu personnellement, mais je pense qu'il doit être... c'est pas une star, hein, c'est pas non plus Whitney Houston, hein, enfin tu vois, c'est pas, mais je crois que bon, ça doit le faire marrer, tu vois, d'avoir des demandes un peu étranges parfois.
Il a pas une demande étrange genre Shenmue 3 ou un truc comme ça?
Ça serait bien qu'il fasse pression, ouais, chez Sega, pour Shenmue 3.
Hein. Peut-être qu'il va le faire, va savoir. Ne répétez pas ça, parce qu'après, le monde entier va s'entamer. Non, je sais pas, il faudra lui demander. Je n'ai pas entendu parler de Shenmue, en tout cas.
Mais la prochaine fois qu'on le voit, on lui demandera de faire pression.
Je pense pas que c'est le genre de jeu qu'il fasse vraiment kiffer.
Non, j'ai pas l'impression non plus.
En tout cas, il me semble qu'il y a pas mal d'admiration pour Yu Suzuki, notamment, je pense.
À cause de sa période arcade,
voilà,
en fait.
Qui n'a pas d'admiration pour Yu Suzuki, sans déconner, pour ce qu'il a fait. Ah bah oui, Outrun, Space Harrier, tout ça.
Et Shenmue.
Mais avant de conclure sur Hideki Kamiya, moi je me rappelle, c'était à l'E3 dernier, à Los Angeles. Présentation officielle de Bayonetta, on était en petite behind closed door, etc. Et c'est pas lui qui présentait vraiment le jeu, il était juste à côté. Il devait avoir le co-réalisateur qui présentait. Et lui, en fait, ponctuait de petites phrases rajoutées et de grands sourires. Et c'était génial parce que à chaque fois, en fait, dès qu'il voulait dire un truc, il était inarrêtable. Je me rappelle de deux trois questions. J'avais posé une question sur les lunettes, justement, pourquoi tous les personnages avaient ces lunettes, etc. Et alors là, il se marre, il te répond mille fois. Mais sinon, je pense que comme il doit y avoir des présentations toutes les demi-heures, ce genre de choses, allez, vas-y, parle. Oh, je rajoutais un petit truc, nonchalamment. Je pense que ça doit l'amuser aussi, ce côté. C'est mon projet, c'est mon bébé, je le chapeaute, je rajoute juste ce qui m'intéresse. Allez, hop.
Quand ils ont fait les interviews avec... beaucoup des interviews, il n'était jamais tout seul, en fait. Il y avait très souvent Hashimoto, qui est en fait le producteur du jeu. Kamiya, c'est le directeur, et Hashimoto, c'est le producteur, qui est beaucoup plus... Alors, beaucoup plus réservé. Je pense que c'est lui qui faisait la présentation à l'E3, qui est aussi très sympa, mais alors, pour le coup, beaucoup moins rock'n'roll que peut l'être Kamiya. Mais je pense que c'est aussi parce qu'il voulait laisser un peu parler et prendre un peu...
Son producteur.
Exactement.
Très bien.
Le poste de producer est très important historiquement pour eux. Ils ont tous été producteurs chez Capcom à mort. C'est un poste central chez Capcom en tout cas.
Est-ce que tu aurais une dernière chose à ajouter sur notre ami Camilla avant qu'on passe à monsieur Inaba?
Pas du tout. Pour ceux qui n'ont pas joué, moi il y a un truc qui m'a fait halluciner et je pense que personne d'autre, j'ai jamais vu quelqu'un oser faire un truc pareil. Je sais pas si vous l'avez vu dans l'introduction en fait, tout au début pour le générique, on rentre dans un cimetière et sur les pierres tombales en fait il y a le nom des développeurs principaux qui ont participé au jeu et ça se finit sur Camilla et le plan s'éloigne un peu en fait et tu vois de l'eau qui tombe dessus et ça s'éloigne en fait, c'est quelqu'un qui est en train de pisser sur son nom, sur la pierre tombale. Mais qui d'autre oserait faire un truc pareil que lui, quoi. Moi je trouve ça hallucinant et je trouve ça génial à la fois.
Oui, c'est vrai que c'est quand même pas mal. Tu pourras déjà avoir l'idée de ah, oh les mecs, on va se mettre dans un cimetière, on sera tous morts et puis il y aura un mec qui pissera sur ma tombe. Effectivement, c'est oui, d'accord, mal. Ok. Il a l'air effectivement barré.
Exactement.
C'est pas mal.
Ah ben, on va passer à Atsushi Inaba. Lui, il est executive director, producer chez Platinum Games. Il est né en 1971, il a donc 38 ans. Et alors lui, c'est un autre tempérament, un autre style d'homme. Pour la genèse, il a commencé en fait chez Irem. Rappelez-vous, hein, c'était son premier jeu, c'est R-Type Leo en 92 en arcade. Et puis ensuite, il a fait un passage éclair chez SNK. On connaît tous hein, les grands jeux d'arcade de baston. Et il était programmeur sur Samurai Shodown, c'était en 93 en arcade. Et alors là, très mauvaise expérience. Hein.
Apparemment, ça lui a pas beaucoup plu. Hein.
Ah non. Aucun intérêt.
Voilà, n'était pas une bonne expérience pour lui et il s'est très vite barré pour rejoindre justement Capcom. Alors ça s'est passé, c'est marrant d'ailleurs parce qu'il a vu, une annonce en fait dans Famitsu qui cherchait à l'époque à embaucher pour bosser sur le prochain Resident Evil de la série. Et il a rejoint Capcom en fait en 98 dans l'espoir de travailler dessus. Donc il se retrouve en fait avec Camilla au final qui donc travaillait à l'époque sur Devil May Cry, donc il n'aura pas travaillé sur le fameux Resident en question, mais c'est comme ça qu'il a rencontré Camilla qui était sur Devil May Cry. Et plus tard donc il va continuer à partir de ce moment là avec les autres chez Clover aussi en fondant ce studio avec eux en 2004 et en tant que producteur
qui a donné vie à des sacrés jeux hein, quand même.
Voilà, et il était alors il avait un poste très important parce qu'il était CEO de Clover et aussi producer sur les jeux, et c'est là qu'il a notamment produit Okami qui était dirigé donc à l'époque par Camilla.
Et alors il y a un jeu, je crois que tu t'en rappelles hein, Franck, complètement hallucinant, espèce de fantasme de gamer, c'est Steel Battalion, et ça on le doit à Inaba. On resitue un petit peu Raon.
Alors c'est un jeu de 2002 qui était sorti sur Xbox 1 et c'est en version japonaise ça s'appelle Teki, c'est un jeu qui est sorti à l'époque. Alors je sais qu'avant même de présenter le jeu, dans mon souvenir, ils avaient présenté la manette. Et la manette, c'était
en fait il y avait un jeu qui allait avec la manette quoi.
Il a même lui expliqué que son kiff c'était d'abord de faire la manette et ensuite il aurait fait un jeu pour la manette en question. Donc c'était une grosse manette en trois parties qu'il fallait assembler avec deux joysticks. Plein de boutons avec des lumières, etc. C'était une simulation.
Quoi.
Voilà, une simulation de MechWarrior, de gros robots de guerre.
Il y a quoi? Il y a une trentaine, quarantaine de boutons là-dessus qui clignotent, qui s'allument.
Rien que pour la séquence d'allumage, il fallait en soulever 7, je crois.
Et
c'était
bien
boutons,
dans l'ordre et en bon rythme, etc.
Oui, sinon ton truc démarrait pas. C'était super dur comme jeu, mais c'était incroyable à l'époque. C'était incroyable.
Il y avait un bouton d'éjection. Le concept du jeu était dingue. C'est-à-dire que quand on s'éjectait, c'était fini la partie.
Alors, si tu ne réussissais pas à t'éjecter
à temps voilà.
C'était game over, il fallait que tu recommences
et
au début.
Ça resetait ta sauvegarde.
Ton pilote était mort.
Et sur ce bouton d'éjection, il voulait mettre à un moment, il voulait mettre un petit pavé en verre, vous savez.
Je l'aime sur la manette. J'ai le clapet.
Il voulait que ça soit vraiment un vrai acte d'éjection. C'est-à-dire que tu casses le petit pavé en verre, et une fois c'est cassé, il faut que tu ailles en racheter un autre si tu veux.
Ah, modèle économique.
Mais en fait, c'était DLC. C'était pas pour faire de l'argent, c'était juste qu'il voulait que le fait d'éjecter, ça soit vraiment le dernier recours que t'aies, en fait, que tu casses ta manette génial, et que tu appuies sur le bouton.
Mais c'était n'importe quoi.
Ah, bah c'est.
Mais la manette c'était un kiff incroyable. Enfin, je l'ai gardé, je l'ai amené à la cave, moi, justement.
Salaud.
Je te l'achète.
Voleur.
Mais alors, le truc, c'est que autant d'un côté, on a Camilla qui, de manière complètement décomplexée, fait des jeux d'action assez dingues, etc., qui sont des best-sellers incroyables, hein, quand même. Entre Devil May Cry, c'est l'un des plus gros million-sellers de la PlayStation 2 à son départ. Resident Evil 2, la meilleure vente.
Beautiful Joe, ça a pas mal marché aussi après.
Pas trop mal marché. Autant Inaba, c'est des vrais jeux d'auteur qui parfois, comme on dit, peinent à trouver un peu leur public, alors qu'ils sont exceptionnels. Okami, par exemple, au secours.
Mais il est producteur, Inaba.
Ouais, c'est Camilla.
Parce que c'est Camilla qui est game director d'Okami aussi. Donc,
mais Steel Battalion, bah, pour revenir, donc Techie là, il y a un truc qui fait halluciner quand même, c'est que Capcom ait accepté
est sorti
de faire ça, quoi. Ouais.
Mais c'est pour ça qu'on lui posait la question quand on l'a rencontré justement au Micromania Game Show, on lui a demandé à Inaba.
Mais comment il a fait passer la pilule, quoi.
Et alors qu'est-ce qu'il
a fait ? Je sais pas. Bah, en fait, moi je lui ai posé la question. L'interview est toujours en ligne, hein, si vous voulez la voir en détail d'ailleurs. Je lui ai posé la question, est-ce que ça serait possible en fait encore aujourd'hui d'avoir un projet aussi barré, quoi, de sortir un accessoire de ouf malade comme ça. Déjà, il a rigolé et il s'est dit, avec une lueur d'envie dans les yeux, genre c'était le bon vieux temps, un petit peu ce ton là, j'aimerais bien pouvoir refaire ça aujourd'hui, mais a priori un truc comme ça c'est pas possible. Déjà c'était très cher, vraiment la manette est énormissime, elle est vraiment énorme.
Ah bah le paquet c'est un Guitar Hero quoi aujourd'hui.
Ouh, ah, c'est plus gros que ça. Moi, le carton.
C'est Guitar Hero avec tous les instruments.
Oui, c'est ça. Ouais, avec la batterie.
Ouais,
machin,
là, c'est une énorme valise. Quoi.
Bah, la manette elle-même, elle doit pas faire loin d'un mètre de base.
Puis il y a des pédaliers aussi. Hein.
Oui, il y avait le pédalier avec aussi, effectivement.
Ça rigolait pas.
Et c'est surtout qu'ils ont fait ça pour deux jeux finalement, puisqu'il y a eu que Steel Battalion, donc le premier, et un autre après en 2004 qui est encore plus confidentiel que le premier. Donc c'était sur Xbox 1. Le deuxième était jouable en ligne. Mais
Line
c'était aussi un
contact.
Jeu c'était un jeu très difficile aussi déjà à manier, parce que vu la gueule de la manette c'était infernal, et puis c'était une pure simulation de mec de robot, enfin c'est un truc un ovni quoi.
Tu parlais il y a quelques instants du Micromania Game Show, justement le fait que Inaba est là, Franck n'en est pas étranger, hein, t'étais avec lui pendant tout son passage parisien, et ça a donné lieu à moult petites pépites, petites anecdotes sympathiques, parce qu'il n'a pas fait que répondre à des interviews. Par exemple, tu me disais le dernier jour, tu l'as amené à un restaurant sympa. Il s'est passé des choses.
Pour remercier les développeurs de venir en France, à chaque fois on les emmène dans des bons restaurants parce qu'ils font le déplacement, ils passent du temps. C'est épuisant honnêtement de faire des interviews toutes les demi-heures, de faire des présentations toutes les heures. Enfin, c'est un vrai métier, hein, mine de rien. Et du coup, à chaque fois, on essaie de les emmener dans des bons restaurants. Et là, on était à un restaurant qui se trouve pas très loin de la Tour Eiffel, en fait, qui a des fenêtres qui donnent sur la Tour Eiffel. Et à minuit, on était encore dans le restaurant, on était le dernier. Je demande au serveur si on peut monter sur le toit pour aller voir la Tour Eiffel. Il était 11h59. On monte pile quand on arrive sur le toit. La Tour Eiffel se met à scintiller. Inaba, il était aux anges, tu vois. C'était génial. C'était vraiment hyper synchronisé. C'était pas vraiment voulu que ça soit aussi bien que ça, mais c'était vraiment synchronisé. Donc voilà, on passe 5 minutes sur le toit. On regarde après le Sacré-Cœur de l'autre côté et tout ça. On redescend. Et là, il y a un des serveurs du restaurant. Donc un truc assez huppé, hein, qui vient le voir et qui dit je vous ai reconnu. Vous faites des jeux vidéo, je suis super fan et tout. C'est incroyable parce que honnêtement, je sais pas comment il a fait, et je suis persuadé que Inaba a pensé qu'on avait demandé au serveur d'aller lui dire ça, ce qui était pas vrai. Je vous jure, j'ai halluciné autant que lui quand le serveur est allé le voir, quoi. Donc c'était assez marrant.
Comment il a vécu ce moment justement, quand un développeur comme ça, il se trouve, il est touché, il est surpris.
Ouais, il a vraiment été touché de toute façon de l'accueil qu'il a eu en France par tous les joueurs. La salle était quasiment tout le temps remplie quand on avait fait les présentations. C'était deux fois par jour, je crois, au Micromania Game Show. Et après, il y avait des séances d'interview qu'on avait fait. Nintendo aussi avait beaucoup œuvré en fait pour que Inaba soit là, Nintendo France. Et sur le stand de Nintendo, en fait, il y avait des séances de dédicaces qui devaient durer une heure. Mais lui, il voulait pas qu'il y ait qu'une heure parce qu'en fait, il a vu la queue la première fois. Il pouvait pas signer suffisamment de posters pour tout le monde. Donc en fait, il arrivait avant. Il repata après. On lui a pas demandé. Classe, c'est lui qui voulait, parce que il était là pour ça, et ça lui faisait super plaisir de voir l'enthousiasme des joueurs français.
Et c'est lors de ce Micromania Game Show aussi, là, et d'ailleurs c'est vraiment ce qu'on a senti et ce qu'on sent depuis quelques mois. Vraiment, c'est l'ouverture des Japonais au monde occidental, du développement occidental. Il avait quelques demandes concernant par exemple des jeux comme Prince of Persia.
Il y a une demande. Ouais, on se baladait. Enfin, il se baladait sur les stands. Hein, je le suis à chaque fois. Il y avait Grégoire, que vous connaissez bien, Greg.
Silver Mousquetaire.
Exactement, qui faisait la traduction, qui l'accompagnait, et voilà. Et à un moment, en fait, il est passé sur le stand Ubi et il a vraiment bien accroché sur le Prince of Persia. Du coup, il nous a demandé s'il y avait moyen de rencontrer le producteur de Prince of Persia, qui est un Canadien, il me semble. Ce qu'on a fait, je suis allé voir les gens de Ubisoft, je leur ai demandé s'il y avait moyen, il n'y avait aucun souci, il était ravi de son côté aussi. Du coup, on a organisé un déjeuner et on a déjeuné tous ensemble, et ils discutaient ensemble avec Greg qui faisait l'introduction, je crois, au milieu. Mais c'est ce genre de truc, il est vraiment ouvert sur le monde et il voit vraiment les autres jeux. Hein. Il n'est pas concentré que sur son marché japonais.
Il nous disait, il était à l'époque, il parlait de Mirror's Edge, il parlait des jeux, en se disant, mais c'est dingue qu'Electronic Arts sort ça, c'est pas un jeu qui est Electronic Arts, ça normalement, et tout, et qui fait des jeux occidentaux, il en parlait avec vraiment une fibre de joueur, quoi. Ce qui est relativement rare finalement, parce que beaucoup de Japonais jouent très japonais, quoi, et pas forcément occidental. Mais
c'est en train de changer, en tout cas chez Platinum Games, visiblement on a l'esprit un peu plus ouvert, en tout cas plus assez réactif. Il y a une dernière petite anecdote concernant Inaba, elle est mignonne en plus, ça concerne sa maman, Franck.
effectivement plus jeune, il, comme Camilla, il rêvait de devenir développeur de jeux. Mais lui vraiment développeur, c'était pas juste de faire du game design ou d'ériger une équipe, c'était faire du développement. Et il voulait un ordinateur, mais ça coûtait une fortune à l'époque. Et de ce qu'il dit en fait, il avait demandé à sa mère de lui acheter un ordinateur. Et il lui disait, écoute, quand je serai en contrepartie, quand je serai riche et célèbre, je t'achèterai une bague et une maison. Je sais pas s'il est devenu riche, en tout cas il est devenu célèbre, ça c'est une certitude. Et sa mère lui réclame aujourd'hui la bague et la maison assez régulièrement. Donc je sais pas comment ça se finira, mais voilà, c'est assez marrant.
Il faudra qu'il nous dise alors s'il fera ça.
Exactement. On lui reposera la question. Alors la bague, c'est fait.
C'est ça, genre à chaque fois que tu le vois, c'est le truc pas relou. Truc j'ai déjà ma mère sur le dos, c'est bon ça. Maintenant.
Je pense qu'elle va lui faire un procès un jour.
Voilà. C'est ces pauvres enfants qui réussissent, ça en fait des traumatisés. Enfin, eh bien écoutez, c'est fini concernant Atsushi Inaba.
Grosso modo. Si, il faut parler un petit peu de Gakuten Saiban, qui est aussi une de ses séries phares, qu'il a produit.
Les
donc,
Phoenix Wright.
Les fameux Phoenix Wright, hein, au nom japonais imprononçable. Beautiful Joe, Beautiful Joe 2, Steel Battalion, Okami, on a dit. Et il a aussi produit God Hand, qui va nous permettre de faire une habile transition vers Mikami. Exactement. Qui en était le director.
Et voilà le dernier pilier dont on avait vraiment envie de vous parler, forcément, Platinum Games. C'est aussi Shinji Mikami qui est game director. Mais attention, c'est un peu particulier pour le cas de Shinji Mikami, puisqu'il a sa propre boîte, en fait, qui est intégrée au sein de Platinum Games. Ça s'appelle Straight Story. Et alors, c'est un peu compliqué à comprendre comment ils ont fait. Apparemment, c'est complexe un peu pour tout le monde. Ils ont lié la boîte à l'intérieur de Platinum Games. Il garde son autonomie, en fait. Et c'est surtout lui qui est en train de réaliser le quatrième gros projet tant attendu, celui qui avait été annoncé parmi les quatre en mai 2008 lors de l'annonce avec Sega.
Dont on ne sait donc rien officiellement aujourd'hui, mais c'est le prochain gros jeu effectivement de Platinum.
Il y a beaucoup de mystères de toute manière globalement concernant les productions Mikami, parce qu'il y a eu aussi un jeu qui avait été en rumeur avec Electronic Arts.
On n'a plus de nouvelles, mais c'est peut-être aussi pour ça effectivement qu'il a choisi d'adopter un poste un peu différent, parce qu'en fait même sur le site officiel de Platinum Games, quand vous pouvez voir les bios des bios très 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 succinctes de ces personnes qui ont fondé ils appellent ça les key members, donc les membres clés de Platinum. Mikami est évidemment dans le tas, mais il est cité juste à côté avec Straight Story Limited, donc ça, son autre boîte a priori. Et on sait aussi qu'il a un autre projet, donc il travaillerait sur deux jeux, un pour Platinum Games et un autre avec Grasshopper, qui est le développeur de Killer 7 etc., qui est donc dirigé par Goichi Suda.
Suda 51,
voilà. Donc c'est peut-être c'est peut-être pour ça que une situation est un petit peu différente, mais apparemment c'est un sacré micmac. Personne ne comprend vraiment exactement s'il est vraiment dans Platinum ou pas, etc. Mais en tous les cas, officiellement, il travaille avec eux.
Bon, en tout cas, toi, Franck, quand tu es passé dans les studios de Platinum Games, a priori, il y avait une zone qui était un peu secrète, probablement micamesque.
Je ne l'ai pas vu, mais les autres RP, a priori, m'ont dit. Je crois que c'était peut-être les gens de Platinum Games. Je ne sais plus trop comment ça s'est passé. Mais a priori, il y avait une zone qu'on n'avait pas le droit d'approcher. C'est-à-dire qu'on s'est un peu baladé. Évidemment, on pouvait pas prendre de photos ou de vidéos. On était des journalistes, voilà, c'était histoire de montrer le studio. Et il y aurait un morceau de l'étage qu'on n'a pas du tout vu. En fait, il se peut que le jeu de Mikami était déjà en développement à l'intérieur.
On croise les doigts.
Il fait en tous les cas partie des titres.
Quoi qu'il arrive, c'est le quatrième jeu. Voilà. Pas encore annoncé, mais sans aucun détail, même pas de titre, même pas de genre, par Sega ou par Platinum Games.
On a tellement plus de surprises quasiment à l'E3. Ils vont peut-être nous en réserver une belle, cette E3 2010.
Je sais pas encore ce qu'on montrera à l'E3. Mais je pense qu'on aura parlé du jeu avant.
Très bien, une bonne info. Shinji Mikami, ça y est, on est parti. Hein. Shinji Mikami, lui, il est né en 1965, il a donc 45 ans aujourd'hui. Il a commencé en 1990 comme planeur, hein, donc c'est les gens qui préparent toutes les tâches précises. Et...
Rien à voir avec les trucs qui planent, comme c'est fait ça. Trace qui fait l'avion.
Il l'a fait à chaque fois, je ne sais pas si vous avez remarqué.
Comme planeur.
C'est donc la troisième fois qu'il fait le planeur.
Et donc lui, en fait, il a plutôt bossé au début sur les jeux qui étaient sous licence Disney. Oui. Ça paraît paradoxal hein, par rapport au titre qu'il va faire plus tard, dont le Aladdin, dont...
Il avait la rage, en fait, au bout d'un moment. Il en avait marre des Mickey.
Putain, je veux des zombies.
Des zombies, vite.
Mais le premier jeu dont il est directeur, bah, c'est Resident Evil, justement.
Et quel premier jeu, quand même?
Non, mais c'est une tuerie absolue, quoi. Ouais. Et à l'époque, il faut se souvenir aussi, il y avait Okamoto qui était là. Ils étaient un peu en binôme, Okamoto et Mikami. Et ils avaient une rubrique dans Famitsu qui était complètement délirante. C'était une sorte de versus, ouais, où ils se renvoyaient un petit peu la balle, parfois de manière assez trash. C'était assez rigolo. En tout
mais
cas,
c'était en 5 lignes.
Hein?
C'était en 5 lignes.
Et pas une de plus.
Et pas une de plus.
Voilà. Mais en tout cas, c'était assez sympa. Toi, tu n'as pas eu la chance de le rencontrer beaucoup pour l'instant.
Non, Mikami, je crois que je ne l'ai jamais croisé. Ouais. Il ne voyage pas beaucoup. Hein. C'est quelqu'un qui reste beaucoup au Japon.
Mais parce qu'il a la terreur de l'avion.
Je crois que c'est ce qu'on m'a dit.
C'est-à-dire qu'à l'E3, il ne venait pas. Ouais. Il venait en vidéo. Quand pour Resident Evil 4, il n'a pas annoncé on stage, il l'a annoncé en vidéo parce qu'il il a peur bleue de l'avion.
C'est ce que j'ai entendu dire. En tout cas, je peux confirmer que je ne l'ai jamais vu en dehors du Japon aujourd'hui. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'a pas fait, mais je ne l'ai pas vu moi.
Ah, écoute, on ne l'a pas vu non plus. Après le succès, donc, il a été promu et c'est là, Raon, ça va commencer à devenir assez sympa. Parce que donc, il y a le fameux Capcom Productions 2004.
Avec, il se retrouve avec Nintendo. Resident Evil fait le carton qu'on connaît, qui est une série qui est devenue maintenant pilier pour Capcom. Donc il se retrouve assez vite promu. Et effectivement, il prend la tête du Capcom Production Studio 4, avec pour mission, en gros, de s'occuper de la pérennité des licences d'horreur, enfin de survival de Capcom, s'il y avait Dino Crisis aussi, etc. Et il prend en 2001 une décision qui avait été très controversée à l'époque et vous vous en souvenez probablement, qui était de faire en fait que les 5 jeux produits par le studio à venir devaient être des exclusivités sur GameCube.
Les fameux Capcom 5.
Les fameux Capcom 5, dont le premier
pas
est
été
le.
Simple, non, mais 4.
On va, et effectivement, le premier donc, qui est à sortir, c'était le remake de Resident Evil 1 sur GameCube, qui est ton volet
qui
préféré.
Est une tuerie tellement absolue.
Voilà, donc nous on l'appelle Resident Evil Rebirth, mais en fait c'est pas son vrai nom. Hein,
c'est Resident Evil.
C'est Resident Evil tout court. Voilà.
Bon, mais enfin, sur une certaine couverture de Joypad, on l'a appelé Resident Evil Rebirth.
Et du coup, c'est resté.
Depuis la Terre entière.
C'est un truc de ouf. C'est vraiment
puisque la Terre entière lisait Joypad, c'est
logique.
On a été logique,
sortir
en fait.
Avec une grosse couve Resident Evil, machin, etc. Et depuis tout le monde l'a appelé Rebirth. Faut-il y voir je ne sais pas.
Bon, en tous les cas,
c'est pas le vrai titre. Hein.
Voilà, c'est pas le vrai
parce
titre.
Parce qu'on avait reçu un mail de Capcom, faut quand même préciser. Oui. On s'était fait défoncer la gueule. Hein. Genre, jamais, hors de question, machin.
Enfin bref, et donc les autres Capcom 5 déjà, donc ces 5 fameux jeux, c'était Killer 7, Beautiful Joe, il y avait PN03, dont je vais reparler dans un instant, Dead Phoenix.
Qui n'est donc jamais sorti, hein, voilà. Mais qui tel le Phoenix un jour peut-être. Ça se trouve, c'est Dead Phoenix, le jeu de Platinum Games. Ah
bah, ça m'étonnerait parce que c'est une licence qui appartient à Capcom, a priori. C'est la
Phoenix quelque chose.
Mais bon, voilà. Bref, donc le premier Resident marche plutôt pas mal. Et cette décision de faire des titres exclusifs GameCube, c'était donc en pleine époque un peu PS2, qui était la machine leader, la Dreamcast qui se cassait la pipe et tout ça. C'était un peu bizarre.
Non, c'était énorme comme annonce. C'était vraiment énorme.
Serrage de main avec Miyamoto.
Et puis évidemment, jeu mature sur une console Nintendo, toujours pareil, une annonce assez particulière. Et là, c'est le drame. Il sort PN03, donc qui est un ratage complet au niveau critique, au niveau commercial. Donc il était game director de PN03, c'était son projet au sein des Capcom 5 pendant qu'il assurait la production exécutive sur les autres projets de ces fameux Capcom 5.
Moi je le trouvais pas si inintéressant ce jeu. Avec une espèce de relation musicale, avec des pauses très osées, très space, et il fallait jouer un peu en rythme. C'était pas très beau, c'était pas très intéressant, j'en conviens.
Mais il avait essayé un truc, ça,
mais
c'est sûr.
Il y avait une origine, il y avait une patte.
Voilà,
un truc.
Mais bon, a priori, il s'est merdé là, sur ce coup-là, et il s'en est très vite rendu compte parce qu'il. Donc à l'époque, il était manager de ce studio et il a décidé de se mettre en retrait, donc de céder sa place de manager pour se recentrer sur des activités créatives et faire Resident Evil 4. Qui est bon, voilà.
Qui a été recommencé plusieurs fois aussi, hein, d'ailleurs.
Oui, oui. Pff,
tellement de fois.
Mais qui, lui, s'en est très bien sorti, en l'occurrence.
Très, très bien.
Donc voilà. Et puis après, donc il a rejoint les autres chez Clover. Il a supervisé.
T'as à peine de parler de Killer 7.
Ah oui, mais c'est pas.
C'est Goichi Suda, mais ils sont justement. Enfin, je les trouve très proches, tous ceux-là, quoi. Enfin, ils ressemblent beaucoup.
Tous ces gens-là.
Ils sont potes aussi, hein.
Non, tous ces gens talentueux. Ils partent tous dans des super délires. Et Killer 7, c'est un jeu extraordinaire. Voilà, c'est dit.
et tu as raison, Julio.
Mais de toute façon, il va refaire un jeu avec Suda, a priori. Hein. C'est son deuxième projet, justement, chez Grasshopper. Donc, bon, on verra.
À suivre.
Et donc, qu'est-ce que je disais
Qui s'est rétrogradé.
Voilà, il est parti chez Clover, il a fait God End là-bas. Donc il y a un jeu qui a.
Alors,
qui a
God End.
Ça n'a pas été un succès hallucinant, mais c'est.
Non, j'en ai vachement entendu parler. Mais...
Bah voilà, c'est ça. C'est, tout le monde en parle. Il y a une communauté de fans de ouf. C'est un jeu un peu barré.
C'est un truc de malade, God
C'est
End.
Un truc de malade.
Vous y avez joué ou pas?
Non.
Parce que c'est Ken le Survivant.
Ouais, c'est ça.
En ultra trash. C'est un jeu qui est arrivé en fin de vie de la PS2. Il est effectivement malheureusement passé un peu inaperçu à la fois. Bon, il est très très spé, mais c'est un truc de fou au niveau des combos, etc.
Bah, y a, genre, il y a la fameuse fessée. Tu peux prendre tes ennemis, les poser sur tes genoux et leur coller des grosses fessées en fait.
C'est ce qui ouais. donne envie.
Par exemple.
Mais c'est une sorte de Bayonetta avant l'heure, hein, très honnêtement, mais oui. dans un truc un peu moins accessible encore comme univers et vachement plus trash. Mais dans le délire de monstres énormes, de trucs qui arrivent tout de suite alors que c'est pas le boss de fin, des combos de malade, 92 000 trucs à appuyer. Mais... C'est ça.
Ouais, mais
c'est
ouais.
complètement barré.
Mais malheureusement, bon, ça a pas vraiment fonctionné.
Mais non.
Voilà. Donc lui, en fait, en tant que director, il a fait surtout donc Resident Evil, Resident Evil 4 et God End. Il a produit Dino Crisis aussi à l'époque chez Capcom, Devil May Cry, et il a produit donc Killer 7 avec Goichi Suda. Voilà.
Notre cher Shinji Mikami, qui quand même reste vraiment un grand nom du jeu vidéo. On a hâte, tellement hâte, de découvrir. C'est sa prochaine production bah chez Platinum Games. Son
pour cette année, en tous les cas.
Games.
On en saura plus cette année.
Mais surtout qu'il n'y en a pas
en
beaucoup.
Cas,
quand
on
qu'est-ce
parlera
que tu en as que 3 il a fait.
Attends. Parce que
pardon, excuse-moi.
Franck qui s'est exprimé quand même.
Non,
on entendra parler vraiment du prochain jeu de Mikami cette année, c'est ça?
C'est ça.
Très bien.
Non, Dead Phoenix. Au revoir. Non, je disais, c'est très peu 3 jeux en tant que directeur pour Mikami.
Il aime bien prendre son temps.
Il aime bien prendre son temps. Et puis il a dû faire plein d'autres trucs, mais.
Ah oui, il a fait d'autres trucs.
Ouais, il a évidemment fait plein d'autres trucs, mais pas en tant que directeur, quoi. Enfin, Alors, il est sorti de Resident Evil, quoi.
Il a produit aussi.
Enfin bref.
Ça, c'est pas tout ce qu'il a fait seulement. Hein. C'est les highlights. C'est les trucs les plus importants, en fait. Hein. Voilà, mais il a participé à bien d'autres projets, évidemment, bien sûr. Voilà.
Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Platinum Games, Franck?
Ah.
Dans les semaines, mois à venir, puisque.
Enfin, il faut qu'on leur souhaite le succès de leur jeu. Premier, j'espère que Bayonetta va être un carton. J'espère que Infinity Space, c'est un jeu tellement pointu que c'est un peu à part. J'espère que le jeu prochain du jeu de Mikami.
C'est vrai qu'on
n'en
a pas parlé, mais Infinity Space, c'est un jeu DS qui a l'air assez
pointu. Le troisième projet.
Et puis c'est un peu particulier aussi parce que c'est un jeu qui est produit par Platinum Games, mais il y a.
Je sais pas quel est le rap. En fait, c'est Nunemaker qui fait le jeu. Platinum Games qui intervient quelque part et Sega qui édite dans le reste du monde. Ça fait partie des choses compliquées dont on parlait tout à l'heure avec Mikami. Et c'est pas lié qu'à Platinum Games, en fait. J'ai discuté avec un autre développeur il y a pas si longtemps que ça, qui m'expliquait que parfois ils avaient même eux du mal à savoir qui faisait quoi dans les jeux parce que c'est pas du tout la même culture et c'est pas pour embrouiller, c'est juste que c'est comme ça en fait. C'est très imbriqué les uns les autres.
Avec Mistwalker, c'est un peu le même délire aussi. Il y a plusieurs boîtes qui participent à plein de trucs, tu sais pas trop qui fait quoi.
Je crois que Platinum Games, c'est une nébuleuse. Très bizarre.
Non mais Julot,
il voulait dire un truc. Tiens, Julot.
À juste titre, on parle rapidement de Miss Walker.
À juste titre, parce que c'est vrai que c'est Phil Plus qui faisait en fait. Enfin, on sait pas exactement ce qu'a fait Miss Walker dans Lost Odyssey ou Blue Dragon.
L'histoire déjà.
Oui, certainement, parce que enfin voilà, t'as quand même un grand monsieur derrière et tout. Mais voilà, c'est Phil Plus qui l'a développé, quoi.
Ouais. Bah, c'est assez fréquent, le fameux outsourcing si cher à
voilà,
Raon,
c'est
permet de mélanger un petit
Phil Plus, au passage, qui va développer un nouveau RPG pour la Xbox 360.
D'ampleur.
D'ampleur.
Donc, à suivre. Enfin, voilà, c'était ce qu'on pouvait dire sur cette belle saga Platinum Games. Une histoire riche, hein, grâce à la personnalité, les personnalités très variées de ces créateurs, de ces piliers. Monsieur Hideki Kamiya, Monsieur Atsushi Inaba, Monsieur Shinji Mikami, mais n'oublions pas non plus le président, hein, Tatsuya Minami, et Monsieur Shigenori Nishikawa. Voilà, qui est game director chez Platinum Games. En tout cas, merci infiniment, Franck, de ta venue.
Merci beaucoup.
De tes bonnes petites anecdotes comme ça qui ont éclairé un petit peu ce podcast.
La prochaine fois que je les croise, je note ce qui se passe comme ça pour un prochain.
Amène un dictaphone, une caméra. Mais non, mais nous, on vient avec des caméras.
T'inquiète pas. On sera là.
On enregistre tout.
Donc merci beaucoup Franck. Maintenant, c'est à vous sur le forum de parler un petit peu de vos souvenirs, de ces principaux jeux qu'on a évoqués rapidement aujourd'hui, hein, des Resident Evil, des Devil May Cry, les Beautiful Joe, les Okami, les Bayonetta, les Steel Battalion, God End. Il y en a tellement, Mad World, et bien évidemment le prochain jeu de Mikami. Qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce que vous espérez? Et peut-être un Mad World 2 qui arrivera cette année. En tout cas, l'actualité de Platinum Games risque d'être assez riche encore en 2010. Et ça nous fait particulièrement plaisir. J'ai envie de dire à la semaine prochaine.
Ben oui, jouez bien.
Ben ouais, portez-vous bien et surtout jouez bien à la semaine prochaine. Ciao,
salut.